La revue de presse internationale avec vous, Marie-Pierre Véraud. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Guillaume.
Direction le Cameroun, au lendemain de l'interdiction des manifestations contre la réélection de Paul Biya, 85 ans à la tête du pays depuis 1982.
Voilà, cela fait un peu plus de 36 ans et il n'entend pas céder à la rue qui, depuis fin octobre et l'annonce des résultats de la présidentielle, se mobilise pour contester un scrutin marqué par les violences. Ce vendredi et samedi, le parti de Maurice Kamto, l'ancien ministre de la Justice de Paul Biya, devenu son principal opposant, avait prévu de défiler dans la capitale. Mais le préfet a pris les devants pour interdire, je cite, « les marches de revendication, de protestation et de désapprobation projetées à Yaoundé ». Maurice Kamto, lui, est détenu depuis lundi par les forces d'élite de la police sous le coup de 8 chefs d'accusation, dont rébellion, incitation à l'insurrection ou encore hostilité à la patrie et association de malfaiteurs. Plus de 200 de ses partisans avaient été arrêtés samedi dernier lors de la marche blanche de l'opposition. Parmi eux, rappelle Jeune Afrique ce matin, le chanteur et animateur de radio Général Valsero, très influent auprès de la jeunesse. L'un de ses derniers titres, Zombie, ne laissait guère de doute sur son engagement politique. Dans son clip, écrit Jeune Afrique, des zombies dont l'un porte un t-shirt voté Biya sont victimes d'un système qui les aveugle et les manipule. Cameroun Info donne la parole au REDAC, le réseau de défenseurs des droits humains en Afrique centrale, qui s'interroge comment expliquer la brutalité des forces de sécurité alors qu'il s'agissait seulement d'une manifestation pacifique pour exprimer les points de vue d'un parti politique. BBC Afrique, en tout cas, rappelle ce matin que la détention de Maurice Kamto ne peut être prolongée au-delà de ce vendredi. Il sera bien traduit devant un tribunal militaire aujourd'hui, confirme le journal du Cameroun, selon lequel Maurice Kamto a entamé une grève de la faim.
Et puis l'Afrique, toujours ce matin, Internet et les réseaux sociaux.
WhatsApp, Facebook, Twitter, dans le collimateur du président soudanais Omar al-Béchir. Il est lui au pouvoir depuis 1989 et a raillé hier soir ses opposants qui tentent de mobiliser sur les réseaux sociaux. Depuis décembre et le triplement du prix du pain, les émeutes se multiplient dans le pays. Elles visent désormais directement l'homme fort du Soudan. Si vous voulez changer de régime, rétorque l'autocrate, passez-en plutôt par les élections. Omar al-Béchir, dont on peut peut-être rappeler qu'il est arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État il y a donc 3 décennies et s'apprête à être candidat de nouveau l'année prochaine. Le Christian Science Monitor, dans un article remarqué par Courrier International, dresse d'ailleurs la liste de tous ces hommes forts du continent qui ont pour passion commune de couper Internet. Zimbabwe, RDC, Gabon, Soudan. C'est bien sûr pour limiter, notamment au Zimbabwe, l'ampleur des soulèvements populaires, écrit le quotidien américain. Dans ce pays, il n'y a plus d'Internet en raison de la vague de manifestations depuis la hausse brutale des prix du carburant. Et les hommes forts africains agissent aujourd'hui contre les réseaux sociaux, comme ils le faisaient hier contre la presse d'opposition ou les stations de radio. C'est ce que note une chercheuse dans les colonnes du Christian Science Monitor. L'ennui, c'est que cela pénalise aussi les partisans du régime, voire leurs propres économies. Un blackout d'Internet coûte par exemple plus de 5 millions de dollars par jour au Zimbabwe. Dans un pays où 95% des transactions financières s'effectuent par la voie électronique en raison de la grave crise des liquidités, il n'y a plus de virements bancaires. Et tout le monde est touché. Le Christian Science Monitor raconte notamment comment une enseignante n'a pu retirer l'argent qu'avait viré son fils depuis l'étranger alors qu'elle a un besoin urgent de médicaments pour soigner son diabète.
Et puis on traverse l'Atlantique pour nous arrêter sur le procès d'El Chapo, le narcotrafiquant mexicain, Marie-Pierre.
Et les jurés vont se retirer pour délibérer lundi. Les dernières plaidoiries ont résonné hier après plus de 2 mois d'audience. Des audiences dans lesquelles s'est plongé le New York Times. Et ce procès, écrivent les reporters, nous a offert un aperçu inédit des dessous du cartel de drogue Sinaloa. Une histoire tissée de meurtres sordides, de pistolets incrustés de diamants, de fusils d'assaut AK-47 plaqués or, de pots de vin, de plusieurs centaines de millions de dollars de trafic de cocaïne dans des boîtes de poivre ou des bidons d'huile, passant par des tunnels dont l'un est creusé sous la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Il partait d'une salle de billard. Mais l'essentiel de ces tonnes de cocaïne, héroïne, méthamphétamine et marijuana valant des centaines de milliards de dollars n'aurait pu être arrêté par le mur de Trump, ne peut s'empêcher de glisser le New York Times, puisqu'elles empruntaient des points d'entrée tout à fait légaux depuis le Mexique vers les États-Unis. Et puis au milieu de tout cela, un accusé, 2 fois évadé de prison, le pont de Brooklyn était fermé tous les matins de son procès pour permettre qu'il soit acheminé en toute sécurité jusqu'au tribunal de Manhattan, écrit le New York Times, avant de poursuivre. Les audiences ont eu leur lot de drames, les maîtresses de Guzman en pleurent, la trahison de son ancien associé. dossier devant la cour. La venue de l'acteur qui joue son rôle dans la série Netflix Narcos, il voulait, a-t-il dit, mieux cerner son personnage, un homme qui est comme un mythe en tout cas dont le procès a raconté comment il exécutait de façon barbare ses rivaux, avait monté une armée, circulait dans un véhicule blindé, mettait tout le monde sous écoute, y compris sa femme et ses nombreuses maîtresses. Une paranoïa qui a finalement causé sa chute, raconte le quotidien de New York. Le technicien du cartel qui avait élaboré son système d'espionnage très sophistiqué l'a en effet ensuite mis à disposition du FBI et l'on s'est souvent cru, conclut le New York Times, parfois davantage lors de ce procès dans une série que dans la réalité.